Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir, c'est dimanche, c'est 22h, c'est la causerie, comme tous les dimanches de 22 à 23, sur radiocanu.org ou sur le 102.2 à Lyon. Et ce soir, on a la technique Jean-Yves.
Oui, bonsoir.
Et puis, il y a aussi Jonathan autour de la table.
Et bonsoir.
Puis à moi.
Fabien.
Salut. Bien, c'est le truc qui tombe. Bon, je pense que tous nos lancements sont comme ça. Hein, donc les gens ont l'habitude maintenant qu'à chaque fois on oublie de présenter celui qui ouvre ou celle qui ouvre la causerie.
Bah oui.
On va saluer trois causeuses qui ne sont pas là.
Oui, c'est vrai. Alors, on commence par qui?
Plouf. Déjà, Clara, salut.
Un coucou à Emma.
Et puis un coucou à Nadège aussi.
Voilà, et on les retrouvera dans les prochaines causeries parce que voilà, elles n'ont pas décidé de quitter l'émission. Hein. Elles ne sont juste pas là ce soir. Vous inquiétez pas, ouais. Tout va bien.
C'est ça.
Donc, tu disais avant qu'il y aurait des problèmes techniques ce soir vu que Clara n'est pas là, c'est ça?
Alors, d'habitude, je préviens. Là, je me suis dit non, tu vois, je vais la jouer cool, sûre de moi. Et en fait, merci, je te remercie. Donc, effectivement, vous l'aurez bien compris, s'il y a des petits couacs. Bah c'est pas grave, c'est comme ça quoi. Et puis si ça vous plaît pas, il faudra venir me casser la gueule à Lyon quoi.
Mais non, arrête tes bêtises.
Bois
un coup avec toi.
Ouais, c'est bien. Et plus c'est affinité. Enfin bon.
Moi je voulais juste faire un petit coucou à Pioui si elle m'écoute. Voilà.
Ok.
Et ben coucou Pioui.
Coucou Pioui.
Voilà.
Et ben si on parlait d'adoption,
mais
maintenant,
oui,
Jonathan.
Si on parlait d'adoption.
Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'adoption. Les gens vont être très surpris de ton sujet.
Mais oui, moi je propose d'adopter des humains. Donc,
Et nous on te propose de monter ton micro.
Alors,
vers
monter
ta bouche.
Mon micro pour voilà. Que, voilà. Est-ce que tout le monde m'entend?
Nickel.
Un, deux.
Nickel.
Alors, adopter des humains, c'est pas très compliqué. Hein, il y a un site pour ça, adopte un mec, achète une femme. Non, on va. Alors, je voulais parler un petit peu ce soir de la question des sites de rencontres et plus particulièrement de ce site de rencontre qui s'appelle Adopte un mec. Donc, qui apparaît comme ça, alors qui a un bon petit nombre d'années maintenant. Hein, ça fait plus de 5 ans qu'il existe. Alors la date exacte, malheureusement, je ne me suis pas renseignée, mais pour tous les intéressés, vous devriez pouvoir la trouver.
Ouais, un petit coup de Wikipédia ou un truc comme ça.
Voilà. Et donc, c'est dans l'ère des sites de rencontres, finalement, c'est quand même un site qui se démarque parce que c'est gratuit pour les femmes et payant pour les hommes. Alors que la plupart des sites de rencontres sont soit totalement gratuits, et donc survivre grâce à la publicité, etc., soit payant. Et donc voilà, on envoie la publicité à la télé, sur les bus, partout. Donc adopte un mec. Alors déjà, pourquoi les sites de rencontres marchent dans notre société, fonctionnent, arrivent à attirer autant de personnes? Parce que déjà, on peut souligner le petit côté enfermé, individualiste de notre société, qui fait que les gens ont du mal à se rencontrer hors monde virtuel, donc phénomène qui a déjà été expliqué plusieurs fois, sur lequel on peut repasser, il y a beaucoup à en dire. Et puis aussi sur parce que quelque part ça donne à la rencontre amoureuse ou amicale, enfin la rencontre sociale, un petit côté consumériste, la capacité finalement de faire un choix, d'établir des critères comme au supermarché, voilà, quand on choisit tel ou tel aliment, tel ou tel produit. Et donc ça fonctionne parce que les personnes vont sur ces sites en pensant trouver ce qui correspond à leur désir, leurs critères. Et enfin, parce que ça rentre tout à fait dans la société de l'image, hein, donc on y va, on pose une photo de nous, quelque chose qui nous met théoriquement en valeur, donc je salue tous les duck face, vous savez, toutes ces petites bouches en mou, en cul de poule, voilà. Ouais. Ou alors, donc voilà, hein, quand on fait... quand on embrasse le cul d'une poule, ça donne ça. Non, pardon. Et ou alors pour les hommes, hein, ce petit côté, il faut être ténébreux, il faut être musclé, il faut. Donc c'est pas comme si.
Et ne pas sourire.
Et ne pas sourire. Non, mais oui, mais c'est pas comme si on était du coup là à exposer le panel des clichés finalement de l'image. Donc pour finalement pour correspondre au maximum, enfin aux critères d'un maximum de personnes. Hein, parce que c'est aussi une façon de pas voir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, de pas voir qu'on ne peut pas être compatible avec tout le monde. Donc voilà. Donc ça c'est pour tous les sites de rencontres. Et donc Adopte un mec a cette petite particularité, comme je le disais, qui est de ne pas faire payer les femmes et de faire payer les hommes. Donc c'est un site qui, quand il a été créé, se voulait un petit peu féministe. C'est-à-dire que c'était l'idée, vous mesdames, vous avez le choix, le total contrôle finalement sur ce que vous mettez dans votre caddie, hein, puisque vous êtes au supermarché des rencontres.
C'est ceux qui font les pubs en noir et blanc, là, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà, adopte un plongeur, adopte un motard. Voilà, ces superbes Apollons publicitaires qui ont un gros blouson et qui finissent sur un tricycle. Enfin, voilà, c'est censé être très second degré, c'est censé ne pas se prendre au sérieux, c'est censé être un site de rencontre léger. Et surtout, donc, a tendance à un petit peu donner le pouvoir aux femmes, girl power et compagnie. Donc, c'est créé par des femmes. C'est un site créé par des femmes et donc dans l'idée c'est vous mesdames qui prenez enfin le contrôle sur la drague, donc ça se présente comme ça. Donc en pratique, comment ça se passe? Vous allez sur le site, vous vous inscrivez. Pardon. Côté garçon, en fait, on paye une petite cotisation tous les mois, on peut lancer 10 charmes par jour. Donc les charmes, en fait, sont les moyens de demander à une donzelle de communiquer avec vous. Hein,
tu veux pas parler?
Si, si. Non, mais je continue. C'est ça, mais... Et donc, et puis voilà, côté fille, on reçoit ses charmes et puis on dit oui, non. Donc autoriser ou refuser, ou autoriser ou mettre à la poubelle. Hein, parce que c'est là, on commence déjà à rentrer donc, voilà, dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la critique que je voulais faire de site. C'est que du coup ça devient très très sélectif, on va dire ça comme ça. L'idée en fait qu'on puisse juger des personnes sur leur profil, sur leur photo, et puis bon, autoriser ou refuser de manière tout à fait aléatoire et sans discussion. Alors bien sûr, dans la vraie vie, hein, on peut refuser de discuter avec des personnes, mais on leur dit désolé, je veux pas discuter avec toi. Là non, c'est refuser ou mettre à la poubelle dans le pire des cas, donc ce qui est assez bizarre. Et donc, ce site consumériste, quelque part, le fait que ce soit... donc moi, je me suis posé cette petite question. C'est gratuit pour les filles et payant pour les garçons. Est-ce que, quelque part, ça ressemble pas à un autre aspect du commerce, finalement, qui est le proxénétisme? C'est-à-dire que là, oui, non, la femme n'est pas une prostituée au sens propre. Elle ne gagne pas d'argent parce qu'elle va fournir des services sexuels. Mais, quelque part... il y a l'offre aux hommes, finalement, contre paiement, de rencontrer des demoiselles qui éventuellement seraient ouvertes à cela. Et d'ailleurs, j'en arrive sur un autre petit souci de ce site, c'est qu'en disent beaucoup d'usagers, eh bien que c'est un petit peu un site de cul. C'est-à-dire que quand on est un mec et qu'on va sur Adopt, quand on est une gonzesse, hein, parce que j'utilise volontairement ces termes un petit peu crus, hein, quand on va sur Adopt, c'est pour baiser, quoi. Enfin, faut pas déconner non plus, hein, c'est parce qu'à un moment donné, dans la vie de tout un chacun, il faut du sexe, et pourquoi pas choisir directement, bim. Alors, Ça pourrait être aussi simplement un site de rencontre où on peut voir des gens, discuter avec eux, trouver des personnes, puisqu'en effet, on est dans une société individualiste et que c'est très compliqué de rencontrer des gens. Donc, ça pourrait être utilisé de cette manière-là et, enfin, finalement, d'une manière très, très utile, socialement utile. Mais bon, il y a cette idée que derrière, voilà, si tu es une fille et que tu es inscrite sur Adopt, bah quand même t'es un petit peu enfin une cochonne quoi tu vois enfin, bah voilà et puis si t'es un mec t'as un petit peu la dalle quoi donc voilà cet aspect là finalement il est très présent quand on discute avec pas mal de gens qui sont inscrits sur ce site là alors que eux-mêmes ils disent non mais moi c'est pas le cas donc c'est que ça doit pas être le cas de tout le monde mais quand même il y a cette idée. Et donc ça aussi c'est marrant parce que beaucoup de personnes qui sont inscrites sur ce site critiquent ce site. Et alors dans les critiques qu'on a, c'est assez bizarre parce que d'un côté les gens qui y vont dans un but de rencontrer tout simplement, échanger, essayer de voir s'il n'y a pas des nouvelles personnes à faire rentrer dans leur vie. Mais à côté de ça, tu comprends, je rencontre que des casseuses sur ce site. C'est un site de cul, c'est un repère de salopes. Du coup, on entend à la fois, parce que pour avoir rencontré donc des types et des filles qui étaient sur ce site aussi, c'est souvent bizarre parce qu'il y a cette ambivalence entre oui, ça m'a été utile. J'ai rencontré une amie comme ça, donc du coup, c'était quand même pratique. D'un autre côté, c'est vrai que la critique est facile et hard.
Mais toujours peut-être dans l'esprit que ça n'apporte pas ce qu'on y attend.
Ah mais jamais.
Ouais.
Jamais.
Dans un sens comme dans l'autre en fait.
Voilà. Alors d'un côté c'est reflété par cette critique. C'est intéressant ce que tu dis Fab. Parce que d'un côté c'est reflété par cette critique-là qui est très dure et très sévère. Et d'un autre côté c'est aussi toute la question de la déception. Oui en effet on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui se... Enfin même dans la vraie vie... On ne voit derrière le masque qu'à partir du moment où on creuse. Mmh. Donc, pareil, on ne peut pas attendre d'une conversation avec quelqu'un, d'un site internet, de savoir exactement ce qui se cache derrière la personne. Et il faut bien la rencontrer pour savoir ce que c'est. Donc après, il y a aussi ces personnes qui disent moi, je ne veux pas d'une rencontre, on boit un café et puis basta. Oui, mais en même temps, si ça ne colle pas, on ne va pas se forcer. Et quelque part, la vraie rencontre, elle est là.
Et en même temps, tu peux avoir des mecs qui se disent, comme j'ai payé, ce serait normal qu'elle se force.
Il y a ça aussi.
Ça, c'est à chaque fois, tu tombes sur une espèce d'écueil un peu glauque, quoi.
C'est ça. C'est que finalement, on est dans le commerce de l'humain, encore une fois. Et alors, ça, pour adopter un mec, parce que c'est très, très... La différence entre le fonctionnement pour les femmes et le fonctionnement pour les hommes est clairement différenciée. Ouais. Mais dans tous les sites de rencontres, finalement, il y a cette attente-là. Parce que à un moment donné on paye, hein, c'est bien pour quelque chose. Faudrait quand même obtenir le produit qu'on essaie d'acheter,
la rentabilité.
Donc voilà. Donc il y a cette espèce de fantasme de la rencontre parfaite parce qu'on l'a choisi, parce qu'on a établi des critères, parce que les critères ils sont toujours aléatoires, jamais complets. Et puis on est toujours déçu parce que même en vrai c'est très difficile de toute manière de rencontrer, on est obligé de s'adapter. Là, il y a peut-être ça aussi, on pense que comme la personne est censée correspondre aux critères, finalement, il n'y aura pas besoin de faire cet effort d'adaptation qu'il y a dans la rencontre, on va dire, dans le monde réel. Et on se retrouve, on est face à un humain avec tous ces paradoxes, donc il faut bien faire avec. Donc peut-être que...
Mais il y avait un site d'ailleurs qui est pire, je crois, qui s'appelle Attractive World, on en avait parlé pendant la prépa, où là tu mets carrément des critères sélectifs et tu ne rencontres que les gens qui collent à 95% aux critères que tu as définis. Mmh. Mais je trouve ça dingue parce que dans la vie on tombe pas amoureux des gens qui nous correspondent, enfin ça se saurait, je trouve que c'est... Alors après je dis pas, hein, si c'était vraiment assumé comme un site de cul et de rencontre de cul et qu'on mette des critères du genre moi je le veux grand, musclé, machin et tout parce que pour le soir là on le veut comme ça, ouais, why not, quoi, mais ça s'assumerait mieux. Mais là, on parle quand même d'un site de rencontre pour faire une rencontre à vie, enfin, comme ils disent, à vie, c'est-à-dire avec des gens qu'on aime, et voilà. Et en fait, je me dis, mais tu tombes jamais amoureux des gens qui te correspondent à 100% ou à 95% de tes critères de sélection premier. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu dingue de pouvoir résumer les humains juste à des critères purement subjectifs et froids, quoi.
C'est exactement ça. Et puis surtout, on est changeant. On peut pas être, enfin, je veux dire, ok, on peut avoir un critère, alors je veux musclé ou fin ou machin, et puis le lendemain choisir que non, en fait, c'est plus du tout ce qui nous correspond. Et inversement, le type ou la fille en face, un jour elle sera de cette humeur-là, de ce physique-là, et puis le lendemain, ça peut changer parce que on n'est pas fixe, on n'est pas statique. Donc à partir de là, c'est très très difficile d'évaluer juste sur une liste de critères ce qui nous correspondrait déjà, et puis en plus ça c'est une vraie question aussi, qui sait exactement ce qui lui correspond, parce que autant on peut tomber amoureux de manière aléatoire de diverses personnes, mais c'est pas forcément parce que la personne nous correspond ou pas. Non, c'est juste qu'à un moment donné il y a ce qu'on appelle le feeling, le facteur humain. Donc c'est
t'as l'impression qu'on veut créer des rencontres, mais sans tout ce qui fait l'être humain, avec ses fractures, ses fêlures, mais aussi ses points super positifs, etc. Et que donc, en fait, oui, effectivement, on en vient à quelque chose de très froid et de très...
mathématique presque.
Oui, mathématique, ouais. Matérialiste pur, ouais. C'est-à-dire je veux un meuble... Enfin, tu vas chez Ikea, tu choisis ton meuble, quoi. Je veux dire, tu choisis le nombre de planches que tu veux, le nombre d'étages, quoi. Donc, c'est un petit peu la même logique, sauf qu'on parle d'être humain. Et qu'en plus, ce que je trouve assez violent, c'est je sais pas comment dire. C'est se positionner d'une manière aussi, impartiale et juge, quoi. Je veux dire, en face, ça veut dire qu'il y a des gens qui se positionnent de la même manière à te juger sur des trucs qui... Enfin, c'est quoi ce qui nous définit, quoi? C'est nos 1m80 ou c'est ce que t'as dans le ciboulot, quoi? Enfin.
Ou les deux liés.
Ou les deux liés, enfin.
Ça, non, mais je veux dire, comme s'il y avait un seul critère qui te définissait.
C'est fin.
Et puis, il y a une petite chose aussi qui est marrante sur Adopt, c'est mettez votre description. Alors, la plupart des sites de rencontres le font, mais donc on a un nombre de caractères bien défini. Puisque tu parlais de ce qu'on a dans la tête. Et donc, tout le monde va mettre finalement sa description, la façon dont il se perçoit, lui. Mais la personne en face qui va discuter un petit peu, qu'on va éventuellement rencontrer, on ne peut pas percevoir la personne de cette manière-là. Donc, on a beau faire tous les efforts qu'on veut pour se vendre, parce que c'est ça au final, ce ne sera jamais exactement le résultat qu'on va donner. Et c'est ça qui est magnifique. Dans la réalité de la rencontre. Mais c'est ça aussi qui fait un petit peu peur dans le fait qu'on puisse vouloir essayer de ranger les rapports humains dans des cases. Et dans des dans des critères de consommation, c'est assez d'un autre côté, il y a quand même j'aimerais tempérer ma critique parce que voilà, j'y reviens, c'est l'idée que ces sites-là, s'ils existent, c'est pas pour rien. Et donc, c'est peut-être qu'il y a une réflexion aussi à faire sur notre mode de société, notre mode de rencontre, notre capacité à aller vers autrui et à créer du lien réellement. C'est-à-dire que, est-ce qu'il serait pas possible, finalement, de faire la même chose que ce qui se passe sur ces sites, c'est-à-dire, au final, découvrir une personne, parce que, au-delà de... Oui, ces critères, on les voit. Quand on voit une personne dehors, c'est ce qu'on appelle l'apparence, le premier abord. Ouais. Donc, ça se fait tous les jours dans la réalité. Alors, pourquoi on n'irait pas vers les personnes qui correspondent, entre guillemets, à ces critères et...
Sauf que t'as le mouvement et le regard que tu n'as pas sur une photo.
En plus.
Donc, t'as pas les mêmes... Enfin, je trouve que l'attirance n'est pas du tout basée sur les mêmes choses, du coup. Et que dans la réalité, t'as quand même le fait que la personne est en mouvement. Et qu'on le veuille ou non, ce qui séduit en premier, je crois que j'avais lu ça quelque part, c'est la façon dont on se meut dans l'espace. C'est que, voilà, c'est ce qui attire l'œil, c'est ça en premier. Avant une plastique ou... Donc, comme quoi, des fois, on peut être ému par quelque chose qui n'est pas du tout photogénique. Mais que le mouvement ne l'est pas, par définition.
Mais complètement. Et puis, c'est quand même une grosse question de qu'est-ce qu'on est capable de faire finalement derrière un ordinateur, jusqu'où on est capable finalement d'oser, et qu'on n'est pas capable de faire dehors, dans la rue, en face. Parce que même cette histoire de mouvement, au final, ce qui va nous accrocher, c'est l'impression que ça nous donne. Mmh. Encore une fois, c'est une histoire d'impression. Et on est, enfin, finalement, on va beaucoup se retenir dans la réalité parce que le rapport humain ne permet plus vraiment ça. Donc, heureusement qu'il existe des sites de rencontre. Donc, c'est, voilà, c'est un gros vicieux paradoxe. C'est, voilà, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, s'il y a des témoins, hein, s'il y a des personnes qui veulent réagir là-dessus, n'hésitez pas.
Écrivez à lacausericanu@gmail.com.
Exactement.
Ouais. Ou sur le blog, enfin, on pourrait réagir sur le blog. Et
qui est où le blog?
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà.
Mais oui, et puis enfin après je enfin
non mais on va dépasser ça en premier.
On mange l'heure. Et en plus enfin alors après moi je j'aime bien justement la découverte de tous ces sites etc parce que je trouve que c'est très intéressant et qu'après il y a plein de parce qu'après autant je vais traîner sur des sites comme ça hétéro et autant aussi sur des sites homo et je trouve qu'il y a des rapports qui sont très marqués, changeants etc. Et où t'as une clarté qui est vachement moins nette en fait, je trouve, sur les sites hétéros. Mais alors attention, c'est pas du tout pour tirer boulet rouge là-dessus, mais c'est on retombe aussi très vite dans le patriarcat, quoi. C'est-à-dire que si une femme venait à marquer sur son profil, cherche des plans d'un soir pour croquer la vie, quoi. Hein, et ben tout de suite, elle sera taxée des pires choses. Et que je me dis effectivement, toi, à ton échelle individuelle, c'est pas toujours évident d'être perçu comme la pire des choses, même si c'est très subversif, etc. C'est bien beau tous ces mots, mais quand t'es tout seul face à tout ça, ben c'est compliqué, quoi.
Il y a une société qui avait tenté le coup, qui s'appelait Eden, Eden.com, qui avait tenté le coup de faire un site de rencontre pour du cul.
Oui.
En fait, mais pour les hétéros.
Oui.
Qui avait dit qu'ils étaient un peu le Grindr des hétéros. Et vous vous souvenez à quel point ils se sont fait tirer à boulet rouge dessus? Au nom de la morale, mais alors à gauche comme à droite. Hein. Oui. Alors à gauche, avec le côté très faux cul de dire c'est des gens qui vont se faire du fric sur la misère sexuelle, ou alors ça me fait toujours rire, comme si il suffisait de ça pour se faire du fric. Et à droite, parce que c'était une attaque aux bonnes mœurs. Mais en fait, au final, je crois que dans les deux cas, c'était de la bonne vieille morale planquée qui disait oh, non, une femme peut pas s'inscrire en disant j'ai juste envie de baiser. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'avait choqué. Qu'en fait, on cache derrière des pseudo-théories, machin. Voilà, mais. À un moment donné, c'était juste ça, quoi. C'était le fait qu'on était clair et ça, les gens voulaient pas.
Mais oui, mais parce que quelque part, on en est toujours au même point.
Ah ben oui, on n'a pas.
À partir du moment où un homme qui s'envoie en l'air sans se poser la question est un don juan, voilà. Une femme qui s'envoie en l'air sans se poser de questions, elle ferait mieux de s'en poser. Hein? Alors, je précise, c'est du second degré.
Non, mais c'est ça.
Exactement.
D'ailleurs, tu soulignais tout à l'heure que les hommes avaient tendance à dire sur ce site, oui, mais comme j'ai payé, je dois pouvoir consommer.
Oui.
C'est exactement l'écueil dans lequel se retrouvent aujourd'hui les saunas libertins ou les lieux libertins qui, pendant très longtemps, ont fait rentrer gratuitement les femmes et qui faisaient payer les hommes.
Oui.
Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient perverti eux-mêmes sans vraiment le vouloir au départ. Parce que l'idée, c'était quand même d'attirer plus facilement les femmes et de dire ici, vous êtes un peu à l'abri, venez, vous n'avez pas rien à payer et tout. Et puis, ça faisait venir de la clientèle aussi, hein, faut pas se mentir. Mais que c'est un écueil, ce qu'ils viennent de se rendre compte, c'est que du coup, les mecs respectent plus les règles du libertinage parce qu'ils ont payé.
C'est ça.
Et parfois très cher. Donc, comme ils ont payé, ils doivent baiser.
Mais
et là, du coup, non, c'est plus du libertinage, c'est de la mise à disposition d'une personne qui a pas forcément envie ce soir-là de baiser avec un tel, pardon, de coucher avec un tel ou un tel ou un tel. Et du coup, les patrons et les patronnes de ces lieux sont en train de se réunir. J'ai vu, ils veulent créer un syndicat, j'ai pas tout compris.
D'accord.
Mais en gros, et la première question qui est sortie, c'est comment on peut revenir en arrière sur ce qu'on a mis en place nous-mêmes et qui finalement pervertit ce qui était au départ quelque chose qui était censé se passer d'égal à égal et qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc voilà. Et c'est intéressant de voir que le site finalement tombe sur le même écueil, c'est-à-dire comme les mecs payent, ils veulent consommer, quoi.
Ouais.
Puis bon, c'est comme, enfin après j'arrête, c'est promis. Mais c'est quand même triste de se dire que on a passé toute l'époque de la révolution sexuelle, qu'aujourd'hui on est censé être à égalité homme-femme et puis à égalité entre les individus, hein, parce que Paris Hilton l'a dit, hein, si elle fait une vidéo porno, c'est une fille de riche. Et puis bon, si quelqu'un d'autre se permet de faire une vidéo porno, ce sera peut-être pas prêt de la même manière. Et donc y a toutes ces inégalités finalement qui ressortent par la sexualité, parce que c'est ça le fond du problème, hein, c'est que voilà, dis-moi comment tu baises et je te dirai qui tu es. C'est quand même horrible de se sentir jugé par rapport à ça, alors que c'est quand même quelque chose de finalement intime, Donc quelque chose qui est censé appartenir à chacun.
Et qui est naturel, on va
et qui est naturel, voilà. Donc c'est, voilà, au-delà de toutes les conventions, de toutes les excuses, hein, finalement, qu'on peut se mettre là-dessus, c'est, on retourne dans n'importe quelle, de n'importe quelle manière, sur toujours les mêmes problématiques de, ben voilà, est-ce que finalement, on pourrait pas cacher un peu ça, hein, parce que
c'est pas bien.
C'est pas propre.
On passe à la musique.
Ouais.
Allez.
My heart is a beep beep beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. No matter what you say or do, what kind of hell you gonna put me through? I'm gonna walk back to your arms.
Voilà, c'était, pardon, Tammy Nelson avec Walk Back to Your Arms. Donc, une jeune fille tout à fait très bien. Hein.
Ah ouais, c'était très très bon.
Voilà, c'était très bon. Et tout de suite, c'est Jean-Yves qui va nous présenter Les Vieux Fourneaux.
Oui, c'est ça. Je vais vous parler de Bad BD ce soir. Donc, comme tu l'as dit, ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. Bah, pour l'instant, il y a deux tomes qui sont sortis. J'annonce direct que le troisième tome, il sort en novembre.
Quoi ?
Ouais, c'est trop de la bombe. Enfin, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est trop de la bombe quand même. Donc, de quoi que ça cause ? Bon, bah déjà, on va vous donner, enfin, je vais vous donner quand même le nom des auteurs. Donc, c'est de Wilfried Lupano, qui est le scénariste. C'est un Nantais. Et il y a Paul Coet, je pense, je sais pas comment le dire. Enfin, bref.
Qui ça s'écrit comme Coet avec un U de plus.
Oui, c'est ça.
Coet.
Pardon. Qui lui est au dessin et à la couleur. Et donc, de quoi que ça cause? Eh ben, en fait, ça commence où on découvre Émile, Mimile et Pierrot, qui sont des amis d'Antoine et qui viennent, enfin, qui lui, Antoine, vient de perdre sa chère et tendre, Lucette. Donc, tous ces gens-là, les vieux fourneaux, c'est pas pour rien, quand même, c'est des vieux, hein, des vieux et des vieilles. Ah ouais, hein, à fond, hein, ils doivent avoir entre 60 et 70 piges. Donc voilà, donc on les suit un petit peu, ils se remémorent le passé à cette occasion-là, parce que c'est quand même souvent comme ça. Hein. Ils se remémorent du théâtre mobile de Lucette, parce qu'elle était à la campagne, elle faisait du théâtre avec son camion, elle allait de village en village. Ça se remémore aussi les luttes, parce que bah, ils étaient sur le front des luttes syndicales, des luttes sociales aussi. On le découvrira au fur et à mesure dans les deux tomes. Ça va autant de la lutte syndicale au sein de leur propre boîte qui était fabricant de Médoc, à la guerre, enfin aux manifs contre la guerre en Algérie.
Pas n'importe quelle boîte fabricante de Médoc, d'ailleurs.
Non, Garant Servier.
Oh, c'est étonnant.
C'est bizarre, hein. Et puis, bah, après, on revient tout de suite à la réalité aussi, enfin, à leur vie maintenant. On découvre l'activisme de Pierrot au sein de ni maître. Voilà.
Il voit pas très bien, c'est ça?
Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, normalement, justement. Parce que ça, c'est dans le premier tome, vraiment, on découvre les personnages avec leur environnement, mais pas très développé. Ça viendra dans le deuxième tome. Dans le premier tome, c'est vraiment, on fait connaissance avec ces personnages-là et avec tout ce qui se passe autour de la mort de Lucette, qui va aussi amener, donc, Antoine, hein, son concubin, en tout cas, chez le notaire, etc., pour régler tout ça. Et puis, il revient du notaire. Et puis, il va chercher un flingue et il se casse. Voilà. Et donc là, en fait, à suite, il y a ces deux potes qui le voient juste se barrer avec un flingue et qui se disent mais qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Il va où? C'est pas bon du tout. Si lui il prend un flingue, ça va pas le faire. Et donc, en fait, c'est les deux autres potes, Mimile, donc Émile et Pierrot, en fait, ils vont contacter Sophie, qui est une des petites filles d'Antoine et de Lucette, qui elle, en fait, a repris le camtar de sa grand-mère. Et qui va refaire du théâtre dans les campagnes, etc. Donc, c'est vachement intéressant aussi cette jeune femme qui revient. En plus, c'est très intéressant parce qu'elle revient enceinte de on ne sait pas qui. Et il y a plein de trucs autour de tout ça et c'est vraiment très bien fait. Là, quand je vous dis ça, c'est pas du tout. Enfin, on n'est pas dans
c'est
du
pas moralisateur.
Non, pas du tout. C'est pas du tout, hein, carrément.
Au contraire, même peut-être.
Ah ouais, c'est limite, on s'en fout un petit peu, si on se demande, mais on s'en fout en fait. et donc, il la contacte et il découvre en fait qu'Antoine, qu'elle avait contacté en découvrant qu'il s'était barré, il s'est barré en Toscane, lui, pour retrouver le patron de Garant Servier. Parce que, il a appris, enfin, en tout cas, Lucette lui a laissé une lettre en lui disant que. Elle a eu une petite mésaventure avec leur ancien patron.
Une mésaventure ou aventure ?
Aventure. Une aventure. Et donc lui, en fait, son idée, c'est d'aller désinguer le patron. Et en fait, une fois qu'ils apprennent ça, les deux vieux et la future maman, là, ils se barrent. Ils prennent une bagnole. Donc là, on est un peu dans un road movie, un peu. Et c'est vachement intéressant parce que, alors elle est enceinte. C'est très drôle. Des fois, elle a des montées d'hormones et les incendies. Excusez-moi, c'était les hormones. Et puis, t'as les deux vieux qui sont complètement un peu, des fois, t'en as un des deux qui, des fois, est complètement à l'ouest et c'est vraiment succulent. Et les dialogues sont, c'est du haut vol quand même. Enfin, moi, je trouve que ça rappelle un peu du Audiard, ça rappelle un peu les tontons flingueurs. C'est vraiment succulent dans le langage. Et donc voilà, et ce road movie, en fait, effectivement, il va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le passé. Et ça donne aussi lieu à un conflit de génération qui est très intéressant, très violent. Enfin, très violent. Il est violent, on va pas non plus abuser dans les mots. Mais encore une fois, c'est vachement intéressant parce que c'est des choses qu'on met sur le tapis comme ça. C'est-à-dire que c'est la plus jeune qui va dire aux vieux, mais vous êtes que des cons, en fait. La société de merde, c'est la vôtre, en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en même temps, d'un coup, elle pète comme ça un plomb, mais c'est pas forcément au meilleur moment. Et en même temps, les deux vieux, ces deux vieux camarades de route, ils vont lui dire, ouais, t'as raison. Et c'est hyper intéressant. Vraiment, on est dans de la sensibilité, on est dans de la colère, on est dans de la tristesse, dans de la jalousie, c'est excellent. Enfin, ouais.
Ah, t'as beaucoup aimé, hein.
Oui, vraiment, c'est excellent. Et donc, on en revient.
Raconte pas toute l'histoire. Hein.
Non, je vais essayer de pas tout donner, effectivement. Je vais essayer. Hein. C'est pas gagné. Mais juste quand même, ça se termine sur un cadeau de ce gros patron. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais qui va effectivement faire des généreux, des heureux et des heureuses dans le tome numéro 2. Parce que ça commence par Pierrot qui reçoit un colis. Avec du pognon dedans et juste marqué pour la cause, signé Anne Bonny. Bonny and Clyde, Anne Bonny.
Ah ouais, tout à fait.
Et donc là, en fait, lui, ça va lui remémorer des trucs parce que Anne Bonny, c'était une militante avec qui il était dans le passé, dont il pensait, enfin, qu'elle était morte. C'est ce qu'on lui avait dit. Et pour lui, en fait, d'un coup, c'est maintenant, c'est un signe en fait qu'elle est en vie. Donc lui, à son tour, va aussi partir dans quelque chose de, mais on retourne dans le passé encore une fois. Et c'est vachement intéressant dans toutes ces choses là où on passe sur les choses, mais ça reste quand même toujours marqué au fond des individus. Et que c'est très drôle parce que ce papy-là, d'un coup, il a l'espoir de retrouver sa Anne Bonny. Et il y a quelque chose de super joli dans tout ça, c'est que effectivement, pour l'amour, les sentiments, la tristesse, il y a pas d'âge, quoi. Et que ils sont vraiment pleinement vivants, ces vieux. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial.
Et un brin anard,
parce que justement, ouais. J'allais continuer. Parce que justement, dans le tome numéro 2, on découvre un petit peu plus les actions de ni yeux ni maître. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Donc c'est excellent, c'est de l'activisme du troisième âge, c'est excellent. Et d'ailleurs à ce propos, je vais vous lire juste un tout court passage. C'est un pote qui dit à Antoine, non pas Antoine, qui dit à Mimille je crois, ou à Pierrot. Lui dit, mais tu comptes faire chier le monde encore comme ça longtemps? Et lui il dit, le plus longtemps possible oui. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? À nos âges, il n'y a plus guère que le système qu'on peut encore besogner du coup. Ma libido s'est reportée sur la subversion. C'est ça, ou moisir du bulbe. Et c'est à peu près comme ça tout le long des trucs, tout le long des pages. Et donc effectivement, c'est excellent de voir que ces vieux rebelles, ces vieux anards, ils continuent à leur niveau, avec leurs moyens, mais ils continuent de faire chier les gens. Enfin, le système, pas les gens. Et on découvre aussi l'archipel anarchiste autonome de la mer de Paname. Donc c'est, enfin vraiment, c'est excellent. On découvre aussi l'île de la Tortue, qui en fait c'est le cœur de la communauté et qui est un squat. Et c'est un squat tenu par une vieille bourgeoise qui est décrite comme Aristo de naissance, mais un art de cœur, et qui héberge mais un tas de gens différents. Ça va des hackers aux étudiants fauchés, aux collectifs un peu informels, qui sont créateurs de plein de mouvements. Et c'est excellent, vraiment c'est excellent, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en image en fait. C'est autant cette solidarité, mais qui est intergénérationnelle en fait. Parce que bah, effectivement dans ce squat, il y a plein de gens. Il y a effectivement la vieille bourgeoise là, qui a 92 piges, que les gamins du quartier s'amusent à laisser à 3 mètres du sol sur son lit électrique. C'est excellent, c'est génial. Et qui, bon, quand elle redescend, elle va prendre des cours de hacking. Et c'est génial, c'est vraiment génial.
Elle va prendre des cours
de hacking. Ouais. Ouais, elle a 92 piges, mais elle est pas morte, donc elle continue.
Un bel exemple pour les gens qui disent, au moins à mon âge, je peux pas me mettre à l'informatique.
Ouais. Mais clairement, c'est vraiment. Et en plus, mais là c'est pareil, parce que même les dialogue entre le hacker et cette vieille bourgeoise, je vais l'appeler comme ça, c'est très drôle parce que on voit justement le hacker qui lui il connaît son milieu, tu vois, et la vieille il parle du flux RSS,
ouais.
Et elle dit un flux URSS. Non, RSS, je préfère. Et c'est excellent parce que t'as tout ce truc là, tu comprends effectivement que la vieille elle est un petit peu bon quand même larguée, mais elle est là quand
mais
même
elle là, ouais.
Mais elle est là
et si on lui explique elle peut y arriver,
c'est ça. Et c'est vraiment excellent, les dialogues sont très bons, les dessins sont magnifiques, je trouve que les personnages ils ont des vraies gueules, ils ont des vraies expressions. Et puis effectivement on baigne aussi dans cet anarchisme au gré des pages, et on n'est pas dans des grands discours etc, on est dans la vie
par le fait
effectivement. Et c'est vraiment, je vous les conseille, c'est vraiment très très bon. Voilà.
Ah bah franchement, ça donne très très envie de le lire.
Bah, tant mieux. Parce que, enfin, et je vous souhaite que ça soit autant, un aussi gros plaisir pour vous que pour moi. Et pardon.
Ouais, non, mais c'est vrai que la façon dont tu en parles, on dirait presque qu'ils ont essayé de mettre en place une sorte d'idylle politique. Le scénariste et le dessinateur, quoi. Et quelque part, ça peut peut-être donner des idées pour nos vieux jours. Pour les vieux jours de ceux qui sont déjà dans leur vieux jours.
Oui. Mais oui, je pense même que ce genre de vieux trucs
existent,
je pense vraiment.
On en a croisé quelques-uns, des gens qui avaient quelques années au compteur, mais qui étaient capables de continuer à faire chier le système,
ouais,
avec des petits trucs, mais ça faisait un bien fou.
Mais oui, et c'est très très bon. Et puis, il y a aussi une critique alors du passé par le Garant Servier, etc., mais aussi par l'actuel.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a un truc qui ressemble un petit peu, je sais pas si j'ai le droit de citer le nom, mais ça vend du pain, ça commence par bas et ça se termine par net.
Ah, pas net.
Et tout ce truc autour, tu vois, de leur baguette qui ont 15 000 noms, quoi.
Ouais.
Et c'est que du merchandising, tu vois. Et c'est, encore une fois, là-dedans, il y a une critique, il y a une vraie critique. Et alors, juste, allez, je vous donne un truc sur l'activisme des vieux dans Ni Yeux Ni Maître. Ouais, allez. C'est un colloque politique de droite. Et puis, ben, ils sont tous là, ils ont préparé un bonbon truc, parce qu'ils ont un ami, en fait, qui est incontinent. Mais attention, hein, c'est pas une maladie, rien, ils le contrôlent vraiment. Il y a un truc, quand tu lui dis ou quand il... ça marche. Et donc, ils appellent Jean-François Copé, et l'autre, il chie dans son froc, et tout le monde est évacué. Et leur objectif était là, c'est-à-dire que ce truc-là n'ait pas lieu. Et c'est excellent, parce que justement, ils font selon leurs moyens.
C'est énorme.
Et c'est génial. Enfin, je vous rappelle le titre, ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. Le tome 1, c'est Ceux qui restent. Le tome 2, c'est Bonnie et Pierrot. Et c'est aux éditions Darko. Je rappelle aussi les auteurs, c'est Lupano et Coé.
Et si franchement si les auteurs avaient l'envie pour la sortie du troisième tome de nous contacter ou qu'on essaye de les contacter. Parce que franchement, ça a l'air vraiment d'être très très bien.
Ouais, ouais, franchement, ouais. C'est excellent.
Et c'est la maison d'édition, c'est quoi?
C'est Dargo. Alors j'ai pas le tarot, j'ai pas le prix, mais.
Mais c'est pas cher pour ce que c'est.
Ouais, c'est ça. Non mais je trouve que alors.
Puis il y a les médiathèques, il y a les bibliothèques.
Oui, oui.
Ça, donc n'hésitez pas.
Et je trouve que c'est peut-être moi aussi qui connais pas suffisamment la BD, hein, et ça c'est largement possible. Mais je suis pas sûr que ce genre de d'ouvrage sur ce genre de thème, sur cette vision-là de la vieillesse. Existe beaucoup en fait.
C'est pas si courant.
Alors Dargo est justement une des rares maisons d'édition qui prend des risques et je crois même que c'est pas eux qui font Astérix, je me semblais à une époque c'était eux.
Oui.
Et du coup ils mettent beaucoup d'argent sur des fois des petits auteurs, enfin d'argent. Je me comprends, mais je veux dire, ils vont lancer des fois des BD où d'autres vont leur dire, on dit, bah non, ça se vendra jamais, et ils tentent des fois des trucs et c'est le cas. Ouais. Et voilà, enfin moi je trouve que c'est une très bonne maison d'édition pour ça. Voilà.
Ben voilà.
C'est une petite parenthèse. Vas-y. Comme ça, parce que c'est comme ça parle de vieux, d'anarchisme, tout ça et tout. Il y a quelque chose qui est toujours très amusant dans les milieux. Ça va introduire ce que je vais dire après d'ailleurs, sans le vouloir. Mais dans les milieux militants, c'est cette espèce de souvent de regard un peu un peu compassionnel ou alors carrément de ah ces vieux débris qu'est-ce qu'ils font encore là qu'ont certains jeunes militants quand ils arrivent parce qu'ils vont tout réinventer, ils savent tout. Et ben en fait souvent il faudrait mieux faire de l'intergénérationnel, c'est juste ça. Discuter entre nous et se rendre compte que quand on se passe les trucs, qu'est-ce que ça marche mieux.
Mais c'est ça, c'est que voilà. Oui, il y a des vieux cons mais il y a aussi des jeunes cons, il y a aussi des vieux sympas, il y a des jeunes sympas.
Non, mais moi je me dis quelqu'un qui par exemple serait je sais pas depuis 30 ou 40 ans dans une radio associative qu'il aurait lancée et qui serait toujours là, et ben on peut se dire ça aide à avoir justement l'historique, le vécu de cette radio et que ça donne l'envie de la continuer avec la connaissance du passé et les apports du présent, c'est-à-dire cette espèce de truc qui se mélange. Alors que quand on a une rupture en disant oui non mais c'est pas la peine d'être là, qu'est-ce que tu fais encore là ou des choses comme ça, comme on peut l'entendre que ce soit dans l'associatif ou dans les mouvements politiques, ben en fait on se prive d'une connaissance et de gens qui sont toujours capables de militer et de faire les choses. Donc on n'est déjà pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de bras, alors on va peut-être arrêter d'en couper.
On se prive de gens tout court en fait.
Ben oui, c'est
du
ça.
Coup, ce serait bien de se poser la question de finalement pour toutes ces associations anti-discrimination s'il n'y en aurait pas une là.
C'est pas faux. À mort l'agisme.
Bon, c'est bon. On s'écoute de la musique ?
Ouais.
Allez, on y va.
Au-delà des rapides, au-delà des falaises accrochées sur le vide, où la faune et la flore jouent avec les langueurs de la nuit qui s'étale, ivre de sa moiteur, en remontant le fleuve où d'étranges présences invisibles nous guettent et murmurent en silence, où sale et fatiguée, sous les ombres englouties, nous fixons les lueurs d'un faux jour qui s'enfuit en remontant le fleuve. En remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des clameurs et des foules insipides, où nos corps épuisés sous la mousse espagnole ressemblent au marbre usé, brisé des nécropoles, où nos tonniers des brumes dans l'odeur sulfureuse des moisissures des pavaigres et marécageuses, nous conduisons nos âmes aux frontières du chaos, vers la clarté confuse de notre ultime écho, en remontant le fleuve, en remontant le fleuve, au-delà des rapides, au-delà des aveux de nos désirs avides, jusqu'au berceau final, sous les vanilles en fleurs, jusqu'à l'extrême arcane, jusqu'à l'ultime peur, en remontant le fleuve, vers cette éternité, où les dieux s'encanaillent.
Bien de retour à la causerie. Je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé. J'ai été surpris par cette fin.
C'est toujours comme ça avec lui.
Bah oui, c'était donc Hubert Félix Stephen, vous l'avez peut-être reconnu à la voix. Et le titre, c'était En remontant le fleuve. Voilà.
C'est issu de son dernier album, n'est-ce pas?
Oui, j'ai plus le nom, mais c'est issu de son dernier album.
Oui, voilà. J'ai plus le nom non plus.
C'est pas grave.
Mais en tout cas, il est à Lyon bientôt. Alors,
oui, il en prend des bientôt. Places. Bon, ben on va attaquer le dernier sujet. On est pas mal à la bourre, mais on y arrivera.
Oui.
Et ben c'est Fab. Je crois que t'as une sorte de prière un peu, non?
C'est une prière. C'est ma prière. Non, me faites pas faire des trucs comme ça à la radio. Non, en fait, moi j'ai juste un ras-le-bol. Je sais pas comment dire. Je trouve qu'on est rentré dans l'ère de la pureté. Et l'ère de la pureté, ben moi ça me fait chier. Alors je vais vous expliquer un petit peu parce que ben la pureté on la retrouve dans tout en ce moment. Alors on la retrouve dans la bouffe. Il n'y a pas une journée où on nous explique qu'il faut manger sans gluten, sans laitage, sans animaux, sans sel, sans poivre, sans produits venant de plus de 80 km de chez soi, sans trucs qui auraient transité par un machin qui ferait des bidules. Sans, enfin voyez, tout ce que je veux dire c'est la journée des c'est les sans. Alors si je suis tout ce que je dois pas manger, je pense que je vais commencer à manger de l'air, mais ça va être un peu compliqué pour survivre. Donc on va être un peu coincé, parce que vraiment, il faut être pur. Donc pour être pur, il faut pas que ton corps il mange des trucs pas bien. Donc il faut bannir tout ce qui est pas bien. Donc ça c'est déjà le côté agaçant, hein, quand même. On se rend compte qu'il y a ce petit côté agaçant, de, voilà. Mais le problème c'est que ça s'arrêtait à la nourriture. On dirait bon, bah, c'est pas grave. Sauf que bah c'est aussi pour la boisson. Hein, parce qu'il faut pas boire d'alcool, parce que l'alcool c'est mal. Et puis il faut pas boire de trucs trop sucrés, ni de trucs trop salés, ni de trucs sans eau, ou des trucs avec eau. Mais si l'eau elle est pas bonne et qu'elle vient du robinet, elle est pas bonne. Ça c'est une énorme connerie d'ailleurs au passage. Mais vaut mieux boire de l'eau en bouteille, mais pas en bouteille plastique, parce que dans les bouteilles plastiques il y a des perturbateurs endocriniens. Mais bois plutôt des bouteilles en verre, parce que c'est bien les bouteilles en verre. Sauf qu'en fait on prend le sable au bord de la mer et que ça fait des trous et que les dauphins ils se noient. Alors prends pas des bouteilles en verre, prends l'eau dans tes mains. Et voilà. Donc voilà. Non, vous voyez, cette espèce de truc de pureté permanent qui est chiant à mourir. Voilà. Je dis pas que c'est mal, hein, de s'intéresser à tout ça, machin et tout, mais c'est juste que ça devient trop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient carrément un leitmotiv quasiment religieux permanent où on est dans la pureté de toute chose. Et là, on se dit, si ça s'arrêtait à la bouffe et à la boisson et à la clope, hein, je vous passerai quand même le truc, il faut pas fumer, hein, c'est mal. Et puis surtout pas de cannabis, hein, parce que c'est encore plus mal. Donc voilà, tout ça, je vous le passe, mais c'est que ça vient même dans le langage. Aujourd'hui, il faut être pur, il faut jamais employer de gros mots, il faut jamais dire des choses trop fortes, il faut jamais s'énerver. Il faut jamais, jamais, jamais prendre le temps de dire « ça me fait chier », parce que c'est mal de dire ça. Il faut toujours être dans quelque chose qui est positif, qui va vers l'avant. Il faut toujours être joyeux. Il faut toujours sourire, parce qu'il paraît que sourire, c'est bien. Il faut ressembler au Dalai Lama, sous Tranxène et Prozac.
Ou à Laurie, pour les plus jeunes.
Ou à quoi?
À Laurie.
Ou à Laurie.
Positive attitude. Voilà.
Il faut être une espèce de Dalai Lama lauriesque.
C'est ça.
Permanent. Et quand c'est le week-end, il faut chanter « ça y est, c'est le week-end ». Et il faut courir et il faut danser et il faut chanter tout le temps.
Mais pas nu, je pense, si.
Ah non, pas nu. Parce que pour être pur, il ne faut pas montrer trop. Mais il faut quand même montrer un peu. Parce qu'il faut quand même séduire, mais pas trop.
Okay.
Mais tout en séduisant quand même.
D'accord.
Parce que si tu vas pas vers l'autre, l'autre ne peut pas venir vers toi. Oui, cette phrase ne veut rien dire. Et
puis, il faut accepter d'être nu sans l'être.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut accepter son corps tel qu'il est.
Mais pas le montrer.
Mais pas trop le montrer.
Voilà. Donc c'est exactement ça. C'est ces trucs-là, mais ça commence à me saouler. Cette espèce de truc où il faudrait que tout le temps, on soit dans des moules, des normes, de langage, c'est chiant. Pardon, je le dis avec un gros mot. Mais c'est épuisant. C'est-à-dire que d'un seul coup, on nie ce qu'est l'être humain. Et l'être humain, bah, des fois, il dit des conneries. Des fois, il s'emporte et il dit des choses qu'il voulait pas dire. Et puis, le lendemain, il vient s'excuser parce que, pardon, hier, tu sais, je suis allé un peu trop loin. Mais c'est pas grave, ça. Ça, c'est la vie. Sauf que non. Maintenant, pour être pur, il faut pas ça. C'est mal. On est vraiment devenu comme des curés. C'est-à-dire qu'on parle vraiment avec les mots pesés tout le temps, faisant très attention à tout, de blesser personne, de ne jamais faire rire mal, tout ça, tout ça. Mais c'est un truc de fou, quand même. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai l'impression, quand je vois certaines personnes qui me parlent, j'ai l'impression de voir Mère Teresa. Pourtant, quelle salope, celle-là. Mais, je l'ai dit, pardon. Oui, Mère Teresa, qui était contre l'avortement et qui disait aux Indiennes...
Justement, je pense pas que c'était une salope,
non.
C'était une vieille réac de merde.
Ouais, tu vois, j'ai pas employé le bon mot. Je m'en excuse, pardon. C'était pas préparé. Mais voilà, non, mais tout ça pour dire quand même que c'est fou. Parce que si ça touchait que ça, ça serait pas grave, sauf que ça arrive dans nos milieux. Dans les milieux militants et progressistes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Mais c'est terrible. Mais oui, parce qu'on est toujours en train de se demander comment il faut qu'on parle. Parce que si vous dites pas le bon mot au bon moment, vous avez une quinzaine de personnes qui vont venir vous expliquer qu'en fait, vous pensiez être quelqu'un d'un peu progressiste qui finalement n'était pas dérangé par grand chose, mais qu'en fait, au fond de vous se cachait un nazi qu'on ne vous avait pas encore décrit. Et là, c'est un peu violent, quoi. Prenons un exemple. Au hasard.
Prenons une mise en situation.
Vous avez des outils aujourd'hui comme Facebook, les forums internet ou des choses comme ça, où les gens très courageusement derrière des pseudos peuvent jouer au chevalier blanc permanent. Même pour des femmes qui voudraient lutter contre le patriarcat mais qui jouent au chevalier blanc, aller chercher l'erreur. Mais voilà, c'est un petit peu un truc de fou. Donc ça donne quelque chose comme une personne qui va rentrer sur un forum anarchiste, par exemple, et qui va dire « Mais il y a un truc que j'ai pas compris, si on met l'anarchie, tout le monde va pouvoir violer tout le monde. » Question débile à souhait, on est d'accord, mais qui peut se poser par quelqu'un qui aurait pas compris ce qu'était l'anarchie. Alors normalement, quand on est à peu près bien constitué dans sa tête, on arrive et on dit à la personne « Non, là franchement t'abuses un peu, je vais t'expliquer ce qu'est l'anarchie. L'anarchie c'est juste l'ordre sans le pouvoir, donc a priori s'il y a de l'ordre on va éviter de se violer. Hein, d'accord ? Et puis d'abord le viol c'est pas un truc acceptable, donc t'évites d'en parler un petit peu trop à la légère. » Voilà. On lui dit ça comme ça, on n'est pas obligé de lui hurler dessus. Non. Non, maintenant on va arriver vers la personne, on va lui dire qu'elle a blessé 12 personnes en prononçant cette phrase, qu'en plus, en prononçant cette phrase, elle s'est placée dans le camp des oppresseurs, et qu'en étant dans le camp des oppresseurs, elle ne peut pas se dire ni évoluer vers l'anarchisme, et elle a qu'à partir ailleurs. Bon, eh ben vous venez de perdre un bon client. Non mais je dis ça en plaisantant en disant le bon client, mais vous venez de perdre quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'intéressait, qui va rentrer, qui va faire une bourde, et des fois la personne qui fait cette bourde, elle a 16 ans. Hein, donc c'est pas quelqu'un qui a lu tous les bouquins de Proudhon et compagnie, ni qui a eu le temps de faire son abécédaire avec Emma Goldman et Judith Butler. Eh ben oui, sauf que le problème, elle pose des questions qui sont un peu bizarres, sauf que on lui tombe dessus, au nom de la pureté. Pas au nom d'une idéologie politique, au nom de la pureté. Parce qu'il faut être pur pour rentrer dans notre secte, figurez-vous. Et c'est là le problème. C'est qu'on n'est pas dans une secte, en théorie. Donc, on n'a pas à être pur quand on rentre. On peut dire des conneries. Quand on vient se renseigner sur quelque chose, eh ben, des fois, on n'emploie pas les bons mots. On n'emploie pas la bonne tournure. Des fois, on est un peu virulent parce qu'on n'a pas compris. Et puis, il faut accepter des fois que les gens soient virulents. Puis, il faut accepter le conflit. Puis, il faut accepter qu'on s'engueule. Parce que c'est la vie, parce que c'est pas grave, parce que moi une société où les gens ils parlent tous bien, ils font jamais d'erreurs, mais c'est une société à la Orwell, une société où en fait tout le monde contrôle parce que Big Brother is watching you, parce que le moindre mot est scruté, la moindre émotion, la moindre expression, et que si vous sortez des rangs, vous allez dans les camps, c'est là que je voulais le dire, et que du coup après vous êtes dans un camp enfermé et puis on n'entend plus jamais parler de vous. Mais c'est ça la société dont on rêve, parce que on en est là aujourd'hui. Moi, je vois des choses sur notamment, alors c'est surtout sur l'informatique que ça se passe. Je vois des choses qui m'hallucinent, des gens qui sont traités de nazis simplement parce qu'ils n'ont pas employé le bon mot entre transidentitaire, transsexuel et trans tout court. Je veux dire, quand on en est là, c'est un truc de fou, qu'ils vont se faire traiter de tous les noms parce qu'ils vont oser dire que pour eux, le traitement de l'affaire DSK n'était pas correct de la part des journaux. Parce que les gens ont présupposé qu'en fait la personne estime qu'on a été trop fort avec DSK, alors qu'il veut juste dire le contraire, mais qu'il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, et que venant dans un milieu plutôt, on va dire, anarcho ou autre, et il se pensait qu'ici c'était clair que s'il disait ça, c'est que lui il estimait qu'on n'avait pas assez chargé la mule. Et non, on va lui tomber dessus en disant « Ah, mais c'est ça, t'aurais voulu qu'on aille moins le montrer menotté, et que ceci... » Et là, la personne là s'en va. Vous l'écoutez pas, en fait. Au nom de votre pureté.
Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre. T'as plus le droit de te poser de questions.
Ouais.
T'as plus le droit de poser des questions à d'autres gens parce que du coup c'est une preuve d'ignorance et du coup l'ignorance n'est pas acceptée. Donc t'as pas le droit d'apprendre. Et pour reprendre un truc que disait Jean-Yves pendant la prépa aussi, c'est un petit peu comme si tu devais maîtriser totalement ton sujet avant même c'est de ça. L'aborder.
C'est ça. Donc on est dans un truc schizophrène.
Complètement.
Et complètement dingue. Pour rendre des mots.
Sauf que ces choses-là sont...
J'ai perdu mes mots. Écoute, tu vas les chercher parce que tu m'as blessé en perdant tes mots.
Non, mais t'es pur là.
En tout cas, ce sont des mots, des vocabulaires, tout ça, qui sont maîtrisés par contre. Ils sont maîtrisés par une certaine élite.
Il y a de ça.
C'est quand même, moi, c'est ça un petit peu quand même ce qui me dérange et qui est quand même assez souvent flagrant. Parce que comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, moi, je suis pas celui qui utilise le plus beau vocabulaire, mais c'est comme ça. Alors, je dis pas que j'y travaille pas, hein, mais. C'est juste que on vient tous de nos milieux, on a tous nos habitudes de langage, et que souvent, c'est très drôle. Ceux qui te font ces remontrances, c'est ceux qui ont tellement bénéficié de cette belle société qu'ils décrivent, et qui ont pu aller à l'université, qui adorent tout ça. Donc,
mais c'est là le problème.
Oui. Et ce là sont où... les maîtres qui disent, encore une fois, aux autres comment se comporter.
C'est que les mots ont toujours une position de pouvoir à un moment donné. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est toi, Jonathan, qui pendant la prépa m'a gentiment sorti cette phrase, et je vais la reprendre. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont plus vraiment dans une recherche de politique, dans le sens de vivre ensemble, mais qui sont dans une recherche identitaire, qui cherchent à exister au travers de cette pureté qu'ils se créent eux-mêmes, avec leur petit monde, leur petite secte, leur petit enfermement. Et du coup, après, ils se sentent un peu plus joyeux, heureux, je sais pas comment on peut dire. Et encore, des fois, quand j'en lis certains, je me demande s'ils sont vraiment joyeux
et
heureux.
Ils sentent peut-être plus forts, en fait.
Et ils sentent peut-être simplement plus forts. Mais du coup, quand on a l'impression d'être plus fort, quand on est dans l'empowerment, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire être plus fort ensemble pour aller vers le combat de quelque chose. Ça, c'est très bien. Par contre, quand on se sent tout seul plus fort parce qu'on maîtrise quelques petits abus de langage et petites phrases bien placées, là, ça devient un petit peu plus fielleux et c'est un peu problématique. Et j'ai l'impression qu'on sombre un petit peu doucement vers ce petit truc-là. Donc voilà, je voulais juste dire que cette ère de pureté, elle me fatigue. Parce que moi, je suis pour qu'on puisse s'engueuler des fois. Je suis pour qu'on se réconcilie autour d'une bonne bière ou d'un bon verre de rouge, ou d'un bon verre de jus bio, comme vous aimez, ou de la limonade, tiens. Ouais. Mais non, mais voilà, je veux dire, je trouve que le conflit fait partie de la vie. Les prises de bec font partie de la vie. Le fait de se parler, ça fait partie de la vie. Le fait d'entendre que quelqu'un peut se planter sur une position ou quelque chose, ça fait partie de la vie. Mais que c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément volontaire. Le fait que les gens emploient pas les bons mots, la bonne phrase au bon moment, ça peut arriver, c'est pas grave. Et que, il faut savoir avoir de la bienveillance les uns envers les autres. Et c'est la bienveillance qui a disparu aujourd'hui. Parce qu'on est dans l'ère du numérique et dans l'ère de l'attaque. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 140 caractères, vous ayez mouché l'autre. Mais ça marche pas comme ça. En fait, ça marche pas en 140 caractères. Ça marche, la vie, c'est des dialogues, c'est des fois des discussions de sourds. Vous savez, ces soirées où d'un seul coup, il y a une conversation qui démarre, et puis il y a deux personnes, puis des gens qui sont à l'extérieur, ils se rendent compte qu'en fait, ils disent la même chose, mais pas pareil. Mais, et puis ça dure pendant une heure, comme ça, ils disent, mais moi, et puis à la bout du temps, ils font, ah, mais en fait, on est d'accord. Eh ben oui, mais tant pis, ils ont mis une heure à arriver à se rendre compte qu'ils étaient d'accord. Mais ça a pas pris 140 caractères. Ça a pris une heure de discussion. Donc comment on peut juger, et on revient un petit peu à ton truc sur les sites de rencontres, comment on peut juger quelqu'un sur une simple question qui est posée maladroitement et partir du principe qu'il mérite d'avoir 10 ou 15 personnes qui lui tombent dessus pour lui expliquer en quoi, en fait, si c'était la guerre, il serait en train de garder des camps, quoi.
Mais surtout, ce que je trouve terrible, c'est que pour reprendre quelqu'un, on s'apprête à être un bourreau.
Mais c'est ça, ouais.
Et c'est quand même assez formidable, dis donc, pour se protéger d'une pure...
Mais la pureté.
Pour être dans la pureté, on veut bien être un bourreau. C'est quand même assez bizarre, quoi.
Puis on est dans une forme d'ère des dogmes, parce que finalement, on se pose pas de questions.
C'est ça.
Finalement, on n'interroge rien et on veut pas non plus s'avouer faible en disant qu'on ne sait pas, donc
ou qu'on ne comprend pas.
Donc on est obligé d'être dans cette espèce de dogme du savoir, de, comme tu disais, d'une élite qui dit, voilà, moi je sais, alors c'est comme ça et pas autrement. Et si on a le malheur de dire, moi je pense autrement, peut-être que tu as tort. Ah, mais là, c'est mort. Non, c'est pas.
Et c'est surtout que la société.
Surtout si je pense différemment, maladroitement. Là, c'est la.
Non, mais surtout que heureusement qu'on pense pas tous la même chose. Mais une société où on pense tous la même chose, c'est une dictature. Hein. Enfin, je le rappelle. C'est un endroit où personne n'ose exprimer quelque chose de différent parce que, là, sinon, voilà. Donc, moi, je suis pas très fan de ça. Je vais terminer sur une chose et c'est un appel. À une des causeuses qui a écrit un texte un petit peu en rapport avec ça.
Oui, c'est vrai.
Et j'espère qu'on pourra le lire un jour dans la causerie parce que, voilà, elle m'a beaucoup inspiré d'ailleurs sur cette réflexion autour de l'ère de la pureté. Et je voulais juste vous dire, si vous mangez gras, c'est pas grave. Si vous fumez, c'est pas grave non plus. Laissez-vous pas juger, c'est votre vie, c'est votre corps. Et que, voilà, c'est peut-être pas bien de mettre sa santé en danger et tout. C'est peut-être pas bien des fois d'employer les pas bons mots. C'est peut-être pas bien des fois de s'énerver. C'est peut-être pas bien des fois d'être humain. Bah, c'est ce que vous êtes, des humains, donc c'est pas bien grave.
C'est ça. Et ben, on passe à la musique.
Les gens formidables, le 11 septembre 2001, n'ont pas dit bien fait pour la gueule aux Américains. Les gens formidables, le 21 avril 2002, ont voté Jospin et ça fait qu'ils se la pètent un peu. Les gens formidables ne se mettent jamais en pétard en affirmant des conneries qu'ils regretteraient plus tard. mais s'il le faut, ils disent ce qu'ils pensent haut et fort de ces sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Les gens formidables voudraient améliorer le sort de ceux qui n'ont plus rien pour vivre et dorment dehors. Ils donnent un peu de leur temps, vont au resto du cœur pour exiger qu'ils fassent de la soupe un peu meilleure. Les gens formidables dans le bus, on est étonné quand ils ne laissent pas leur place aux personnes âgées. Mais c'est pour pouvoir leur être plaisant davantage, pour leur dire désolé, vous ne faites pas du tout votre âge. Pour les faire acheter aux passants, ils disent que c'est des handicapés non-voyants. Des gens formidables disent la vérité aux enfants, leur mettent dans la tête les phrases toutes faites des grands. Ça en fait des petits adultes inquiets ou futiles, bref, un genre de gamin qui fait fuir un pédophile. Leur présenter un jour l'homme qu'il aime. Ils sont même plutôt déçus que ça ne soit pas le cas, à moins que ça soit ça qui fait que ça ne les gênerait pas. Les gens formidables distinguent l'amour et le sexe et ne retombent amoureux qu'une fois séparés de la Rex. Les gens formidables pensent que sans exagérer, faudrait que le profit cesse un peu de tout gouverner, même si ça n'empêche pas certains de trouver Sarkozy formidable.
Et c'était Les Malpolis avec Les Gens Formidables. J'adore cette chanson, tellement elle résume bien ce que j'ai essayé d'exprimer avec ces gens formidables qui vous donnent des leçons tout le temps, qui ne s'énervent jamais.
C'est ça.
Qui ne sont pas croyants, mais qui aiment bien les gens qui croient. Je suis un peu fasciné par tout ça.
Ah, bref,
Les Malpolis, enfin, je vous conseille, écoutez plein de chansons des Malpolis. Ils en ont une sur les patrons et tout qui est géniale aussi. Voilà. On a bien dépassé.
Donc on va essayer de faire rapidos parce qu'en plus on n'a pas grand chose.
Salut, bonne nuit.
Non, quand même. Non, je crois qu'il y a Jonathan qui voulait nous parler d'un appel à soutien.
Alors oui, donc un crowdfunding, comme on dit.
Un quoi?
Un crowdfunding. Crowdfunding. Non, c'est-à-dire un appel à don, enfin une... Comment on dit?
Une souscription.
Une souscription, on aurait dit une souscription en français à une époque. Quoi.
Une souscription ouais. Sur Facebook pour un groupe que vous avez entendu la semaine dernière pendant l'heure précédente. De la causerie, donc pour Anger in the Reward System, AITRS, qui ont un Facebook et donc en fait qui sont en train d'organiser un petit événement dans le sud, là où ils sont basés pour leur groupe. Et donc cet événement, c'est une espèce de festival. Et voilà, ils auraient besoin d'un petit peu d'aide pour pouvoir organiser ça. C'est un gros truc apparemment, donc ils se lancent, ils commencent à être un petit peu connus. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous aviez aimé la musique la semaine dernière.
Et on peut dire à notre auditeur du sud, tu pourras y aller.
Oui.
Et tu te reconnaîtras, Clans.
Je sais pas s'il nous écoute encore.
C'est de ma faute. C'est ma faute, je le sais.
On a fait rentrer une fugiste et du coup il est parti. Non, j'aimais mieux l'accent de Lyon.
Et puis ben, un autre truc, ben, c'est l'appel à dons de Radio Canu qui continue. Oui. On remercie déjà toutes celles et ceux qui ont donné, qui continuent de donner parce que...
Et surtout ceux qui cet été d'un seul coup ont eu l'envie de donner plein et, ouais. Et vraiment, non mais pas forcément des gros chèques, mais on a reçu beaucoup de dons cet été et vraiment merci parce que ça fait vraiment chaud au cœur de se dire que en plein de saisons où les gens sont pas là que d'un coup ils pensent à nous.
Et puis avec vos petits mots, c'est très mignon.
Oui.
Non mais vraiment, enfin j'ai eu la chance d'ouvrir 2-3 enveloppes comme ça de dons parce que Radio Canu, on le rappelle, il n'y a pas de salariés, pas de permanents, donc bah, c'est un peu... certains ou certaines qui ont cherché le courrier qui ont la chance de l'ouvrir voilà. Ou pas et puis ben voilà ben, tomber sur des mots effectivement où ben, différentes personnes remercient Radio Canu etc pour les différentes choses qu'elles peuvent faire cette radio ce qu'elle peut émettre donc continuez de soutenir Radio Canu, ça se passe toujours par chèque si vous voulez, vous pouvez les envoyer à
Radio Canu BP 1101 69 201 Lyon CEDEC 01 ou alors aller sur le site de Radio Canu donc radiocanu.org et vous découvrirez l'IBAN et toutes les coordonnées nécessaires à faire vos virements par internet.
Waouh, c'était bien dit ça.
C'est ça. Et ben voilà.
Ouais.
Et ben,
je crois que... Moi, j'aimerais bien juste faire un petit une petite remarque pour tous les gens formidables. Pour tous les gens qui pourraient éventuellement réfléchir dans leur tête et se sentir visés. Comme disait Gainsbourg, reconnaître qu'on est con, c'est déjà l'être un petit peu moins.
Oh, elle est belle celle-là.
Donc voilà, c'est parce qu'il faut jamais, rester là où on est. Toujours réfléchir à ce qu'on est.
Oh, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est une belle conclusion.
Maintenant, j'arrête de parler comme un livre.
Ben, c'est les pages qui se tournent.
Wow.
C'est pour parler comme un livre.
Ok. Bon, ben, je pense que là, vu le niveau de la blague, eh on va vraiment rendre l'antenne. Hein.
Ouais. Et on se quitte avec quoi, alors
on se quitte avec un groupe de hard rock marseillais.
Wow.
Oui, qui a fait du hard rock pendant longtemps, qui s'appelle Quartier Nord, qui est très très peu relayé sur les chaînes YouTube et compagnie, donc assez difficile à trouver, mais qui est quand même génial. Et donc voilà, dans les quartiers nord de Marseille, on ne fait pas que des musiques hein, cataloguées.
tu veux dire du hip-hop et du rap.
Du hip-hop et du rap, de la soul, du R&B. Voilà, il y a aussi de la funk et du hard rock. Et donc quartier nord avec le blues du plâtrier.
Yes.
Avant qu'on se quitte, je veux préciser que l'accent de Jonathan n'est pas faux, c'est son vrai accent.
Oui.
Voilà. On va recevoir des
après, on reçoit des trucs. Oui, arrêtez de faire l'accent.
Non, de temps en temps, il ressort un peu plus que d'autres, mais vous allez le remarquer, chers auditeurs, c'est dès que je suis un peu stressée ou que le sujet m'enflamme, ça ressort.
Mais et on t'en veut pas.
Non, on t'aime
vraiment.
Comme ça.
Merci.
Bon, eh ben, on vous souhaite une bonne nuit, bon courage pour la semaine qui arrive,
ouais.
Ou bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et puis, ben voilà, on se dit à la semaine prochaine.
Salut.
Ciao, ciao. Ciao. Déjà 5 heures du matin. Il faut...
Yeah.